Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1, c'est Clap qui démarre pour une heure de cinéma, de découverte, de plaisir, je l'espère, en tout cas de partage, ça c'est sûr. Alors comme chaque semaine, nous allons décrypter l'actualité des sorties salles, qui est plutôt calme hein, cette semaine, vous allez voir. Victor Bonnefoy et Franck Vallière seront à mes côtés en dernière partie d'émission pour vous parler notamment de Stillwater, le film américain qui réunit à l'écran Matt Damon et notre Camille Cotin. On parlera aussi du Sommet des Dieux, joli film d'animation, on parlera climat avec Bigger Than Us, produit par Marion Cotillard. Ou encore de Troisième Guerre, film avec Anthony Bajon qui joue un jeune soldat envoyé dans une patrouille sentinelle. Nous évoquerons également la ville de Marseille, peut-être la nouvelle muse du cinéma. Et puis à 14h30, c'est le grand entretien. Nous passerons un moment en compagnie de l'actrice que nous avons tous envie d'avoir en amie. Celle qui a illuminé la comédie Tout ce qui brille, qui nous a surpris dans Le Grand Bain, qui nous a fait frissonner dans Chanson douce, qui nous a éblouis dans La Source des femmes, qui nous a émus aux larmes lors de sa remise de César en 2011. En tout cas, celle qui vous bouleversera dans Les Intranquilles, c'est Laila Bekti. On reviendra sur son rôle aux côtés de Damien Bonnard, mais aussi sur les films de sa vie, comme La Strada de Fellini.
Ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ma fille reste avec nous.
Mon papa reste avec nous.
Et puis dans un autre style, et alors que Kaamelott continue de vous rassembler dans les salles, j'aurai en ligne Arnaud Klein qui a battu le record mondial du nombre de visionnages d'un même film au cinéma. Voilà pour le programme de Clap et ça commence maintenant.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Alors une semaine cinéma marquée par un record battu et pas n'importe lequel. Jusque-là, il était détenu par un Américain qui lui avait vu 191 fois Avengers Endgame. Et là, c'est Arnaud Klein qui vient de battre le record mondial du nombre de visionnages d'un même film au cinéma. Il a donc vu Kaamelott 203 fois. Arnaud Klein, bonjour, merci d'être là.
Bonjour, et j'ai refait une séance depuis, j'en suis à 204.
C'est pas vrai, 204, mais pourquoi pour le plaisir, parce que le record il est déjà battu.
Il est déjà battu, mais c'est pour démotiver le prochain qui voudrait me détrôner.
Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être dans le business book des records?
C'est un rêve de gosse, donc du coup je me dis ça y est, mon nom est dedans, c'est une chose de moins à faire dans la vie.
Alors 204 visionnages du film, en combien de semaines?
En 2 mois à peu près.
En 2 mois. Et à chaque visionnage, vous étiez très concentré, sans téléphone portable, sans rien faire d'autre, juste le film, uniquement le film?
Alors non, j'avais mon téléphone portable avec moi parce que j'avais une liste de défis à faire. Et donc du coup, il fallait que je note les choses. Par exemple, combien il y a de cuillères dans le film, combien de fois il y a le mot cire dans le film, combien de fois Perceval s'énerve. Enfin, j'avais plein de choses comme ça. Et donc, il fallait que je les note à chaque fois comme un compteur. Et donc oui, j'avais mon téléphone portable dans les mains.
Physiquement, c'était compliqué?
Au début, oui, parce qu'il a fallu que je m'adapte à 4 séances par jour. Donc ça, je l'ai tenu pendant 41 jours consécutifs. Et ensuite, j'ai fait de la rétention d'eau. Donc ça, il a fallu que je le règle avec du sport. Le plus dur, ça a été l'horloge interne qui a été complètement chamboulée. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à savoir quel jour on est, quel numéro de jour on est.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui trouvent ce défi débile?
Que c'est débile, mais donc c'est indispensable.
Franck Vallière, vous êtes à mes côtés. Et vous...
Mais je me demandais, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis monteur audiovisuel.
D'accord. Et vous avez trouvé le temps de faire ça en parallèle ou vous avez pris un arrêt
Il a fait un break, je pense.
Alors non, j'ai fait ça en parallèle. De 6h à midi, je montais. De midi à 13h, douche et manger. Et ensuite, du coup, j'allais au cinéma jusqu'à minuit. Je rentrais, je dormais et ça continuait encore et encore.
Je crois que vous êtes marié ou vous avez une conjointe?
Enfin, il était marié.
C'est caché.
J'allais dire, ça va, elle en a pas trop.
Non, elle est toujours là, elle est toujours là.
Elle est venue voir Kaamelott?
Non, pas du tout, elle a trouvé ça... Elle est venue 4 fois, 5 fois en tout.
Est-ce que vous avez une réplique culte?
Mais il y a un mot qui est un peu une insulte, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas du tout?
Oui, allez-y.
La duchesse d'Aquitaine est une pute est une phrase absolument parfaite pour moi. Surtout dans le moment où elle est dite.
Voilà. Merci beaucoup Arnaud.
Avec grand plaisir.
Mais c'est beau d'un autre côté de se fixer des défis et de... Ouais, et puis au moins, bah, ça fait vivre l'industrie du cinéma. Donc moi, je dis bravo. Alors, on vous parlait il y a plusieurs semaines de Bac Nord qui cartonne au cinéma. Le film a dépassé les 1 650 000 entrées cette semaine. Là maintenant, Stillwater sort également au cinéma. De nouveau, l'action se passe à Marseille. Alors c'est vrai, on parle souvent de Paris pour le cinéma, de Paris, ville qui inspire. Mais la cité phocéenne a énormément inspiré également les cinéastes. À bout de souffle, par exemple, de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo et Jeanne Siber qui situait l'intrigue à Marseille où ce jeune voyou volait une voiture, oui, pour se rendre à Paris.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Borsalino de Jacques Deray racontait les aventures de deux jeunes voyous qui tentent de devenir les caïds de la pègre marseillaise avec, rappelez-vous, au casting, quand même un duo de rêve, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, pour la première fois en tête d'affiche.
Vous savez, une pièce dans chaque poche. Avant, ça m'amusait. Mais pas ce soir. Salut, Rock. La chance, ça n'existe pas.
Alors Marseille, ville inspirante du cinéma français et de grandes franchises comme Taxi également.
Cornichon,
Martine.
Ouais, Martine, comme ma sœur.
Alerte générale.
Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher?
Et puis nous pourrions vous en citer tellement d'autres, Les Neiges du Kilimandjaro, L'Immortel, La Mémoire dans la peau, La Shkoumoun ou encore Pépé le Moko. Et j'en passe. Alors Franck Vallière, Marseille finalement, muse du cinéma international.
Et oui, et au long cours, Laurie. D'abord essentiellement parce que Marseille a beau être la plus grande ville de France ultra urbanisée, certaines zones restent des poèmes intégraux, Malmousque par exemple. Mais à vrai dire, quel que soit l'endroit où l'on pose son regard dans cette ville, c'est un terrain de jeu d'exception pour la fiction, qu'elle soit cinématographique ou même antérieure, parce qu'il faut rappeler quand même que le château Todif, par exemple, a été rendu célèbre dans un petit bouquin pas mal du tout, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui sera d'ailleurs porté plus de 20 fois à l'écran en France et à l'étranger. Marseille, c'est aussi un titre, simplement un titre de film réalisé par Cadmerade.
Oui,
on y a tourné 5 taxis, 2 transporteurs, 2 Borsalino. Bref, la liste des classiques tournés, ne serait-ce qu'en partie, à Marseille, donne plus le tournis qu'une bouteille de pastis à Valais Cussec.
Ok, alors pour les classiques, mais il y a aussi des films étrangers qui ont été tournés à Marseille.
Bien sûr, par exemple, Love Actually, qui a été en partie tourné dans le quartier du Panier. Il y a d'ailleurs un malentendu causé par la version française du film de Richard Curtis qui n'a jamais, lui, voulu faire croire que le film se déroulait au Portugal. Vous vous souvenez quand Colin Firth court après sa femme de ménage pour lui déclarer sa flamme et la retrouve précisément rue des Phocéens dans le 2e arrondissement. Il y a eu un bug dans la traduction alors qu'en VO on comprend très bien qu'il est dans l'arrière-pays. On voit d'ailleurs un plan dans le film juste après qu'il ait atterri de l'aéroport de Marignane. Et puis il y a bien sûr French Connection, 5 Oscars en 72, dont 2 pour William Friedkin, meilleur film et meilleur réa, et 1 pour l'interprétation géniale de Gene Hackman. Alors certes, le film s'appuyait sur une réalité dont Marseille se serait bien passé, le trafic d'héroïne vers les États-Unis dans les années 60.
Et alors, quel est le réalisateur finalement qui a le plus tourné à Marseille?
Eh bien, c'est un Arménien. C'est sans doute le gang du serial filmeur Guédiguian qui sévit le plus ces dernières décennies avec 8 films au compteur, Marius et Jeannette, Au fil d'Ariane, La vie est tranquille, etc. Mais d'autres ne sont pas en reste. Cédric Gimnez, qui a grandi dans les quartiers nord, y a tourné La French sur l'affaire Zampa avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch, qu'on retrouve lui d'ailleurs dans Bac Nord. Et bien sûr, Olivier Marchal y a tourné plusieurs films, Bronx. Et puis MR73, j'ai eu la chance par exemple d'aller sur la scène d'ouverture du film, avec un Hauteuil, Braque, un bus pour rentrer chez lui, c'était absolument génial, de nuit, 3h du matin, pas un bruit sur la Canebière, hormis quelques mouettes en jet lag. C'était absolument génial et ce soir-là, je me suis dit, voilà, ça, Marseille est faite pour le cinéma.
Merci beaucoup. Alors on embrasse aussi Didier Allouche qui est actuellement en France. Donc forcément, s'il est en France, il ne peut pas nous livrer son JT d'Hollywood, mais il nous donnera des nouvelles la semaine prochaine, évidemment, et d'autres décryptages. Alors c'est la fin de cette première partie. Surtout, ne bougez pas dans quelques instants. Elle sera là, Laïla Bekti, la magnifique, pour nous parler de la sortie des Intranquilles et des films de sa vie également. Ce sera dans quelques secondes dans Clap sur Europe 1.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours sur Europe 1, c'est la deuxième partie de Clap et j'ai le plaisir cette semaine de recevoir une merveilleuse actrice, César du meilleur espoir féminin en 2011 pour Tout ce qui brille. Et c'est elle qui ne cesse de briller depuis. Bonjour Laïla Bekti, merci d'être avec nous.
Merci.
Alors, on va parler des Intranquilles, on va parler Troisième Guerre. Également, vous êtes à l'affiche cette semaine de Troisième Guerre. Et mercredi 29 septembre sort Les Intranquilles, film de Joachim Lafosse qui était en compétition au dernier Festival de Cannes. Vous jouez aux côtés de Damien Bonnard. Un couple à l'épreuve de la maladie. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce film?
Énormément de choses. Déjà, le regard de Joachim, c'est vraiment un film sur le couple, sur l'engagement. Et puis, c'est un film Quand je dis populaire, c'est qu'il est, il est pas clivant. Il parle à tout le monde. J'ai aimé le regard nuancé qu'il avait sur le couple. C'est pas du tout manichéen. Et puis j'ai aimé jouer cette femme qui
Femme en colère.
Ouais, cette femme en colère, cette femme qui aime, cette femme qu'on juge, qu'on aime aussi, qu'on et puis cette famille. C'était il y a énormément d'amour et de lumière dans le film et moi c'est ce qui m'a aussi ce qui m'a poussée à vouloir interpréter ce personnage.
C'est vrai que c'est un film bouleversant parce que ça pose vraiment cette question de jusqu'où on peut aller par amour. Qu'est-ce qu'on peut pardonner ?
C'est exactement ça. C'est pour ça que je parlais d'engagement tout à l'heure. Et puis c'est vraiment propre à chacun. Mais c'était très très important qu'on sente que c'est un couple qui s'aime. C'est une femme aussi qui a choisi de s'occuper de son mari.
Qui est bipolaire.
Qui est bipolaire, ouais. Et elle n'est pas, elle n'a pas peur. Elle n'est pas la seule et unique chose. C'est que quand on devient parent, les décisions qu'on prend de... peuvent se répercuter sur les enfants, donc c'est des vrais... Mais j'ai adoré faire ce film, ouais.
Comment est-ce que vous avez travaillé avec Joachim Lafosse ? Parce que, par exemple, il laisse beaucoup de place aux spectateurs, il ne nous dit jamais quoi penser, quoi juger, comment est-ce qu'il vous dirige ? Qu'est-ce qu'il vous a dit sur le tournage ?
Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on a eu une semaine de répétition dans le décor, parce que 80% du film se passe dans la maison, et c'est très très rare, avant un tournage, qu'on puisse avoir une semaine, et on a vraiment réécrit les scènes à trois. Et c'était merveilleux d'ailleurs, parce que pour la fin du film, qu'on a tourné à la fin du tournage, il nous a dit, écoutez, vous savez quoi, on va l'écrire ensemble, l'histoire, et c'est vos personnages qui vont décider de la fin.
C'est génial.
Et ça, c'était merveilleux, parce qu'on tournait, on ne savait pas ce qu'on allait faire à la fin. Et du coup, c'était vraiment un tournage en mouvement. Enfin, le film porte bien son nom, Les Intranquilles. On est tous intranquilles dans ce film.
Complètement. Alors, on ne va pas dévoiler la fin, mais qui a choisi la fin finalement ?
nous deux finalement, nos deux personnages, non vraiment.
Damien et Laïla.
Quand je dis avec Joachim évidemment, mais quand je dis nous deux, c'est que j'ai aimé qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde tous les trois. Alors il y a eu aussi beaucoup d'impro, beaucoup de donc ça c'était extraordinaire. C'est tout le monde est indispensable sur un film et ça j'ai trouvé ça merveilleux qu'on puisse se donner notre avis, qu'on puisse
changer.
Ouais, ça c'était magnifique. Moi ce que j'ai adoré dans ce film, c'est des scènes du quotidien. C'est que pendant qu'on se dispute, on peut rire. On peut, enfin, ça me bouleverse le quotidien. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur. Et Joachim j'ai adoré son regard en fait sur ce couple.
Et si ce comédien qui joue votre fils, qui est incroyable.
C'était mon petit cœur d'amour. Et moi, je.
Il a un regard.
Non, mais
bouleversant.
Il est bouleversant parce que c'est. Vous savez, quand on tourne avec un enfant, c'est vraiment, c'est des moments de vérité. Eux, ils sont dans l'instant. Et il y a le regard, l'écoute qu'il avait. Était mais folle. Après moi c'est vrai que j'ai eu la chance de très bien m'entendre avec lui dans la vie, donc il était beaucoup à la maison avec les enfants et
c'est vrai.
C'est un petit garçon qui est très très important pour moi. Je l'aime, il le sait. Je l'aime énormément et je trouve
Gabriel,
que c'est un très très grand acteur. Ouais. Mais surtout il s'en fout et c'est ça qui fait aussi que c'est un grand acteur.
Et il comprenait le sujet du film. Il était.
Oui, il comprenait mais. Voilà, il n'en faisait pas un sort. Ouais, c'était un jeu, exactement. Et puis, ça ne l'empêchait pas de demander s'il y avait des sandwichs et il y avait quoi comme dessert à la cantine. Et ça, tant mieux. Parce que j'avais déjà joué avec un enfant qui m'avait demandé une verveine et qui avait 7 ans. Et ça m'a fait très peur.
Laïla, j'aimerais qu'on écoute un extrait des Intranquilles.
Mes amours.
Allez.
Mais si vous savez m'entendre, si vous savez me comprendre,
Damien,
que je chante juste ou non.
Damien, j'ai plus envie de rigoler là.
Mes amours. Voici la terre promise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise.
Je vais pas tenir.
Le cœur n'a qu'une chanson.
Je vais pas tenir, Damien.
C'est terrible ce « je vais pas tenir ».
Ouais, c'est exactement ça, « je vais pas tenir ».
Elle le sait, en fait.
Ouais, et puis c'est le quotidien de cette femme qui veut porter sa famille et en même temps... cet homme qui... alors, il est malade, il le fait pas exprès aussi, mais c'est... Et puis ça raconte aussi, c'est un peintre, quand il prend ses médicaments, il crée moins. Donc ça fait partie de lui. Enfin, donc mais voilà, c'est sur... Mais d'ailleurs, c'était beau de prendre cet extrait, parce que c'est ça un couple aussi, c'est de se tenir. Comment on fait quand on tient plus ? C'est
de se tenir et c'est de se tenir à tour de rôle. Et c'est vrai que moi, ce qui me bouleverse dans cet extrait, c'est qu'on sent que c'est la crise de trop.
Exactement.
C'est-à-dire qu'effectivement, lui, il est artiste, c'est la double peine. Quoi. Il fait de la peine à sa famille,
exactement.
En même temps, il ne peut pas exercer son art.
C'est
peut-être qu'il ne pourra plus jamais l'exercer.
Voilà. Et il le sait.
C'est
pour ça que j'ai vraiment aimé le regard que porte Joachim. C'est tellement nuancé parce qu'il y a beaucoup d'amour entre eux. Mais quand on n'arrive plus à se tenir, parce que évidemment qu'on se tiendra peut-être jamais droit dans un couple, mais si on peut juste au moins d'être des fois la béquille, et des fois de pas être trop la béquille, c'est compliqué, c'est propre à chacun, c'est pour ça que c'est irrationnel l'amour, et que ce que vous acceptez dans votre couple, peut-être que moi je l'accepterai pas, et vice-versa.
En tant que femme, en tant que maman, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant le film ?
J'étais très émue, parce que... Et puis le film, il est... Alors on croise les doigts pour la sortie, mais moi déjà la sélection à Cannes m'avait profondément émue, et puis j'aime ce que ce film raconte et dans sa vérité. Moi, j'aime que les choses... Physiquement, j'ai 15-17 kilos de trop, c'est une femme qui s'oublie, et c'était important que physiquement aussi, ça se ressente.
Elle lui dit à un moment.
J'ai pris 15 kilos en 2 ans, je pense plus à moi. Et ça, c'était très important pour moi, parce que avant d'être actrice, je suis spectatrice, et moi aussi, je les vois... Les personnages qui disent « je pense plus à moi » et qui sont sublimissimes et que je me dis bah, « pourquoi quand je pense plus à moi, c'est pas comme ça ?» Et c'était important. Je trouve que ça m'a beaucoup aidée dans ma manière de me tenir. Je me sentais forcément pas très bien. Mais c'était, en tout cas, c'était un vrai accompagnement pour moi.
L'accueil à Cannes, la standing ovation, l'émotion, c'était le film qui a clôturé la compétition. Vous avez ressenti quoi ?
J'étais très 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 émue. En plus, on a vécu ça tous ensemble. Il y avait les gens du film qui étaient là. Les producteurs, elles les avaient invités à la projection. J'ai trouvé ça merveilleux. Et c'est toujours très émouvant quand on a travaillé très dur et que, parce que c'était vraiment un tournage épuisant. J'étais épuisée à la fin de ce tournage. Mais tant mieux, c'est bon signe. Mais j'étais.
Il est épuisant, votre mari, dans le film.
Ouais. Mais c'est vrai que le Cannes, ça restera un souvenir merveilleux.
Comme souvent avec Cannes, d'ailleurs. Je me rappelle de toute l'équipe du Grand Bain aussi. Le film
c'est vrai qu'on a eu de la chance.
Ouais. C'était des beaux accueils.
Ouais. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir de beaux accueils. Oui, parce que des fois, ça peut...
Ça peut être violent.
J'espère que ça ne m'arrivera jamais.
Non, on est sûr que non. C'est un film, donc, par ricochet sur l'enfance aussi, un peu volé, abîmé. Elle rêvait de quoi, Layla, enfant ?
D'être heureuse. Je ne rêvais pas d'être actrice, je ne rêvais pas d'être... Moi, je voulais être heureuse avec les gens que j'aime.
Qu'est-ce qui vous rendait heureuse ?
Les gens que j'aime.
Donc, c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Ça fait un peu... je dis tout le temps bisounours, mais c'est vrai.
Mais c'est en même temps, c'est l'essence de
non,
la
mais
vie
en fait,
aussi.
C'est que, oui, non, mais en fait, le truc, c'est que moi, mon métier, il est très, très, très important pour moi. C'est fait partie de moi. J'ai besoin de m'épanouir dans ma vie de femme, pour m'épanouir dans ma vie de maman, dans ma vie de copine, dans ma vie de... Mais c'est vrai que quand ça va pas au travail, si ça va bien à la maison, c'est toujours plus facile. Mmh. En tout cas, c'est moins difficile. Je sais pas si c'est plus facile, mais c'est moins difficile. Et moi, ça a toujours été ma béquille et ça le restera, quitte à passer pour... c'est pas grave.
Non, je crois que vous avez raison. Vous êtes vraie, c'est aussi pour ça qu'on vous aime. C'est aussi pour ça que je le dis dans l'émission. Vous avez cette image de bonne copine qu'on aimerait tous avoir parce qu'il se dégage beaucoup de sincérité dans tout ce que vous faites.
Merci beaucoup.
Ce que vous postez sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'accessible aussi. Vous allez bientôt passer à la réalisation. On peut en dire un mot aussi ?
Bien sûr. Ouais, là, je suis en train d'écrire mon premier film avec mon co-scénariste Romain Oliveau. Bah, là, il va être content parce que je vais prendre une petite pause. Il ne le sait pas. Donc, si tu nous écoutes, je compte prendre une pause pour qu'on écrive, qu'on finisse notre scénario. Non, plus sérieusement, là, ouais,
C'est lancé.
Ah ouais, c'est complètement lancé. Et puis j'ai la chance d'avoir une personne qui m'a... Je commence une phrase, elle l'a finie. Enfin, c'est génial de pouvoir trouver... Moi, l'idée d'écrire seule ne m'intéressait pas beaucoup. Et puis Ouais, on a envie de raconter la même histoire. J'adore sa sensibilité, donc ça, c'est génial. Donc... Du coup,
c'est une histoire de famille, c'est ça ?
C'est une histoire de fratrie, ouais. Bizarre. Bizarre.
Alors, vous avez dit, j'ai fait une pause. Effectivement, vous n'arrêtez pas de tourner. Vous avez beaucoup de projets. Il y a La Flamme 2 aussi, là, qui va se tourner. Il y a ce très beau film en salle en ce moment. C'est La Troisième Guerre.
Oui, avec Anthony Bajon et Karim Leclou.
Ouais.
Qui portent ce film. C'est fabuleux ce qu'ils font. Vraiment, c'est et je suis hyper heureuse parce que j'ai lu plein de belles choses sur le film. Et voilà, c'est le premier film de Giovanni Alloy. Mmh. Et je suis très fière d'être dans ce film. Alors, c'est vraiment Anthony et Karim qui portent le film. Et c'est pas de la fausse humilité, c'est la vérité. Mais
c'est
je suis
sur l'attente d'un soldat.
Exactement.
Sentinelle.
Et c'est oui, c'est intelligent, c'est nuancé, c'est quand même des gens qui ont été là après les attentats, les gens de l'armée qu'on voit, enfin les gens les sentinelles qu'on voit dans la rue. Ils attendent qu'il se passe quelque chose. En même temps, ils espèrent qu'il ne se passe rien. Et en même temps,
c'est long
psychologiquement,
d'attendre.
Bien sûr, l'attente, ça peut. Donc c'est surtout ça sur le quotidien de ces sentinelles, et c'est un tout petit tournage, et c'était un tournage tellement heureux. On s'est encore envoyé des messages avec Anthony.
Leïla, vous restez à mes côtés, et vous aussi, restez avec nous dans quelques instants, vous saurez tout des films importants de la vie de Leïla. À tout de suite sur Europe 1.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être au rendez-vous de Clap, j'espère que vous allez bien et que la journée se passe bien. Moi, je vous la rends encore plus belle grâce au moment que je partage avec mon invité, Leïla Bekti, à l'affiche cette semaine de La Troisième Guerre et mercredi 29 septembre des Intranquilles, magnifique film de Joachim Lafosse. Vous arrêtez pas en fait, en gros, pour résumer.
Non, mais sincèrement, j'arrive à
tout concilier.
Oui, et puis moi j'embarque mes enfants, c'est je les prends partout avec moi, donc du coup je les vois, ils sont tout le temps avec moi.
Votre première grande émotion au cinéma?
Alors j'en parle souvent, j'en parle souvent parce qu'en même temps, le truc c'est que ma première émotion au cinéma, ça a été pour La Strada. C'était un film de Fellini, ouais. Enfin c'est toujours un film de Fellini. Giulietta Masina, donc l'actrice principale de ce film, me bouleverse. Et voilà, je raconte souvent cette anecdote, mais quand j'étais allée voir La Strada avec l'école, et quand je suis rentrée à la maison, ma mère m'a dit alors c'était bien, et je lui dis c'était super, la dame elle parlait avec les yeux, et puis je me suis rendu compte 10 ans plus tard qu'en fait c'était une grande actrice. Et maintenant, si je parlais de ma plus grosse émotion, ça a été quand j'ai vu L'Incompris de Comencini. Je sais pas si je le reverrai encore, ce film.
Film sur l'enfance.
Ouais. Mais c'est des pleurs qui font du bien. Je pense que ça m'a parlé à un endroit, je ne sais pas lequel, et ce n'est pas grave. Mais en tout cas...
Vous aviez quel âge? Vous en souvenez?
Ah non, je l'ai vu il y a peut-être 10 ans. Mais c'est vrai que c'était... Je pense que c'est l'une de mes plus grosses émotions au cinéma. Ouais.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Il y a une petite anecdote assez drôle. J'ai eu la chance d'être jury à Un Certain Regard au Festival de Cannes il y a quelques années. Et Thierry Frémaux, donc le directeur du Festival de Cannes, me connaît un peu et sait que je peux être dans l'affect et que je suis très expressive quand j'aime et quand j'aime pas aussi. Et du coup, on a fait une sorte de réunion qu'il fait avec le jury et il nous a dit « Le jury assiste aux projections des films et il y aura les équipes, donc évidemment... Quand vous regardez le film, quand la lumière se rallume, vous applaudissez, vous repartez, mais vous ne montrez pas si vous avez aimé ou pas. » J'ai dit, évidemment. Cut. Je me souviens, c'était un premier film, c'était un film qui s'appelait Les Bêtes du Sud Sauvage. C'est pas que j'ai pleuré. Et je me souviens que la lumière s'est rallumée, j'étais en larmes et j'ai regardé toute l'équipe du film et je leur envoyais des pouces comme ça. Je leur envoyais des pouces et des pouces et des pouces. Et j'ai tourné ma tête et il y avait Thierry. Et j'ai dit, et il m'a dit, c'est chouette, t'as tout bien compris ce que je t'avais dit. Mais bon, en même temps, voilà, c'était, l'émotion, elle était trop, trop grande.
Elle était vraie.
Ouais.
Le film que vous revoyez sans cesse?
Les films de mes enfants. Je fais plein de films, moi.
J'adore. Super 16, mal cadré, plein d'émotions.
Ouais, et puis je fais des montages et tout, parce que moi, je me prends pour une grande monteuse. Avec mon téléphone, j'ai pris
des
applis du téléphone. Ouais, je trouve que c'est une génération qui va... Alors, on est souvent en train de dire, ouais, les téléphones, ça je comprends. Maintenant, ça va être une génération, ils vont avoir tellement de vidéos, de photos d'eux. Enfin, c'est magnifique. Mais là, je fais un truc magnifique que je vous invite à faire aussi.
Je
filme moins mes enfants, je les enregistre à leur insu. Je trouve ça magnifique.
Je suis d'accord, c'est beaucoup plus fort.
Ouais, parce qu'ils savent maintenant quand on les filme, donc ils font leurs petits intéressants. Là, quand on les... Donc, c'est trop beau parce que la voix, c'est magnifique de les écouter. Donc, ouais, on va dire les films de mes enfants.
On est à la radio, hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Il n'y a rien de plus fort que la voix et uniquement la voix. Votre comédie romantique préférée ?
Alors, Les choses de la vie.
De Claude Sautet.
Un juif, il faut que je parte en vacances avec mon fils, quasiment.
Après ton fils, il y aura autre chose. Ton père, ton travail, ton copain François, ton île, n'importe quoi, n'importe qui.
Tu n'as rien à me dire ?
Je suis fatiguée, Pierre. Fatiguée de t'aimer.
C'est marrant parce que souvent, enfin, on m'avait beaucoup parlé de César et Rosalie, que j'adore. Mais moi, Les choses de la vie, ça m'a beaucoup plus bouleversée.
Oui, parce que c'est, Les choses de la vie, c'est plus vu comme un film dramatique que vraiment la comédie romantique.
Oui, puis je sais pas. Oui, mais en même temps, c'est des personnages qui se ratent comme ça. Et en même temps, je sais pas, moi,
les
ça m'a bouleversée. Ouais, c'est Les choses de la vie. Après, moi, j'adore Pretty Woman, j'adore Coup de foudre à Notting Hill, j'adore... Love Actually, moi je suis une romantique. D'ailleurs, je viens de tourner un film hyper romantique avec Karim Leclou.
Oh, génial.
Et Louise Bourgoin. C'est le premier film de Guillaume Bureau. Et je sors tout juste de là. Et c'est bien parce que ça m'a laissé des traces. J'étais hyper romantique du coup dans la vie.
C'est quoi la chose la plus romantique que vous ayez faite dans votre vie ?
La chose la plus romantique ? Ben, je la fais tous les jours. C'est d'être là et d'aller au bout du bout du bout du bout pour lui.
C'est beau.
Il le sait. Bon, il le sait, il ne sera pas du tout touché.
Oh si, mais il le dira peut-être pas.
Ouais.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre ?
Grise, évidemment.
Évidemment.
Bah, évidemment.
Mais pour être Sandy ou Rizzo ?
Les deux. Franchement, les deux. Mais c'est magnifique. Je rêvais de... Grise, c'était le film que je regardais avec ma sœur tous les mercredis après-midi. Et je me souviens, on se faisait des coquillettes. Et on les sortait de la casserole et il fallait vite, 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 vite mettre du fromage râpé. Ah ouais. Oh là là. C'est l'une de mes chansons préférées de Grise en plus. J'adore. J'aimerais vivre là-dedans. Ouais. Ouais.
Le film de votre jeunesse ou un film que vous recommanderiez à un enfant ?
E.T., c'est un film que je recommanderais à un enfant parce que ça parle de la différence. Ouais, c'est un film que j'ai hâte de montrer à mes enfants. Les films de Chaplin aussi. J'ai hâte de leur montrer. J'ai envie de leur montrer aussi La Cité de la Peur.
Donc un peu plus âgé.
Ouais, un peu plus âgé, mais en même temps, j'aime bien. Là, je leur apprends le second degré et tout. J'aime bien l'idée que mes enfants, même petits, aient du second degré.
Vous nous rappelez leur âge ?
Ils sont tout petits encore. Le plus grand, il a 4 ans.
Bon, le plus grand, il peut commencer un peu à.
Ouais, non, mais je lui dis. Je dis, t'es trop beau, tu rentres pas chez moi, tu t'en vas. Il rigole et tout. J'adore.
Ouais. Une réplique culte dans La Cité de la Peur ?
Oh, bah on est, y en a plein. Je suis content. Je suis trop content. Odile de Ray, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Bienvenue à l'aéroport de Nice. Voilà. J'en ai vraiment.
On a un chewing-gum, Émile.
Voilà.
Et on peut tromper une fois.
Bon, voilà.
Voilà, on a compris. Ouais.
Attention, Émile, derrière vous !
Ça ne prend pas assez. On peut tromper 1000 fois une personne. Mais on ne peut pas tromper. Si. On peut tromper une fois une... Non, on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes.
Vous voulez un chewing-gum ?
Oh non, merci.
Ah oh, si, prenez un chewing-gum, Émile.
Vous voulez un whisky ?
Oh, juste un doigt.
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
You who believe, dansons la carioca. C'est bien, faisait tous comme moi.
On a envie de le revoir. En fait,
évidemment.
Ce soir, vous pouvez revoir La Cité de la Peur. J'espère qu'on vous a donné envie. Alors, ce n'est pas la BO d'un film, mais Leïla Bekti, si je vous fais écouter cette chanson. Est-ce que vous connaissez la chanteuse ?
Je ne l'aime pas beaucoup.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je ne l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout.
Avec eux, on a pas peur. Magnifique. Merci. Duo avec Grand Corps Malade.
Oui.
Comment ça s'est fait ?
Bah, c'était merveilleux. C'était moi, Fabien, je le connais parce qu'on a des très bons amis en commun. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il sait que j'aime beaucoup son travail et son travail de metteur en scène et son travail de compositeur, de chanteur. Et il m'a appelé il y a quelques mois en me disant « Écoute, est-ce que ça te dirait ? Je vais faire une réédition de mon album Mesdames. je vais faire une réédition et voilà, je voudrais faire un duo avec toi. Je dis, mais n'importe quoi. Et il me dit, écoute, tu peux choisir le sujet, tu peux, et puis si ça te va pas, on va jusqu'au bout et puis on la sort pas. C'est pas. Et puis je me suis dit, si ça peut servir que pour mes proches, pour leur dire à quel point je les aime et pour les remercier, et ben ça vaudra le coup. Et du coup, pendant 2 mois, on s'est appelé tous les jours. Je suis hyper heureuse d'avoir fait ça avec lui parce que c'est, je crois que c'est l'un des mecs les plus droits que j'ai rencontré dans ce métier.
Et des plus talentueux.
Ouais. Et du coup, ouais, voilà, c'est une chanson qui me touche. Ouais.
Alors, c'était pas la BO d'un film, mais c'était quand même un joli clin d'œil.
Ouais, merci.
Et pour terminer.
C'était la BO des films de mes enfants, on va dire.
Ah, bah oui, voilà, c'est
et voilà.
Ça.
Et voilà.
On pourra aller voir, j'espère, un
bien
jour.
Bien sûr, évidemment,
gagner, ça,
demain.
Hein.
Demain, je fais un post avec tous mes enfants.
Merci beaucoup.
Merci pour
ce moment. Alors, je rappelle que vous êtes donc à l'affiche en ce moment de Troisième Guerre et mercredi 29 septembre des Intranquilles, le film de Joachim Lafosse aux côtés de Damien Bonnard. Restez avec nous surtout à l'écoute de Clap sur Europe 1. Dans quelques instants, nous allons décrypter l'actualité du cinéma. Laïla, à bientôt. Et je vous propose qu'on se quitte. Tiens, vous choisissez la chanson. Mais...
Ah, et on a tenu le vous. Hein.
On a tenu le vous.
On va pas
oui,
se mentir,
oui.
On se tutoie évidemment dans la vie. Et on a tenu le vous. Je pensais pas que j'allais le tenir.
Non, j'avoue, tout au long de l'émission, je me suis dit, bon, bah, faut croire qu'elle m'en veut, peut-être de quelque chose, donc ça l'arrange de me vous voyer.
Non, parce que tu m'as dit, je te vous vois et tu me. Non, j'ai dit, bah non. Non.
C'est vrai.
C'est vrai,
on va penser
la
à nos auditeurs, on ne les exclut pas. Oui, tu peux choisir la chanson.
Entre quoi et quoi?
Entre Grand Corps Malade et Grand Corps Malade, si tu veux.
Bah, Grand Corps Malade.
Allez,
bah,
okay.
Franchement, Grand Corps Malade.
Alors, tout de suite, c'est le sens de la famille.
Merci.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches. Sans eux, je suis pas entière. Je les veux pas loin, souvent, partout. Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à se prouver. Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine. Dans cette équipe, tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester. Très loin du star system, tu restes tard, si t'aimes. Si jamais je devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour, je n'aurais besoin que de leur présence pour que la vie reste facile. Peu importe ce qu'il y a sur la table, ce qui compte, c'est qui il y a autour. Ce que je ressens, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
J'ai un peu de mal à imaginer la vie sans mes proches. Quand je dis un peu de mal, en fait, je l'imagine pas du tout. C'est avec eux que j'avance, de la sérénité plein les poches. S'ils ne le partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut le coup. Et à l'inverse, il n'y a rien qui ne me fasse plus de peine qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonçait terne. Le drame, ça se partage, mais ça n'apaise pas l'esprit. Ils m'ont transmis tout ce que j'aimerais transmettre à mon tour. C'est grâce à eux, si je suis en paix, que je pars pas en vrille. Leur humanité sans trompette, leur bienveillance sans détour. Ce que je leur dois, je veux leur dire. Je crois que j'ai le sens de la famille.
Évidemment, quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours. On te confie le rôle ultime, celui qui te change viscéralement. Tu savais pas que c'était possible de générer autant d'amour. Je trouve pas de mots assez forts, c'est tellement, tellement.
Et évidemment, quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées. Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde. Je n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer. J'ai découvert les liens visibles et les plus solides du monde.
Les enfants, c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir.
Ils nous rendent complètement ouf, mais en un sourire, on vacille.
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment. Et dès qu'ils dorment, tu veux les voir.
Eh ouais, on est devenus ceux qu'on chambrait. Je crois qu'on a le sens de la famille. Et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs qui n'ont pas le même sang. Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou de quartier. Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents.
La famille, c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels. Ceux qui te connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent. Ceux qui te parlent la bouche fermée, parce que le cœur s'en mêle. Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout le cortège.
Compose-toi bien, ma chérie. À bientôt, je t'embrasse.
Ça va, s'il te plaît.
Au revoir. Merci pour le cadeau.
Tu vas manger, vas-y, viens, je t'attends.
Salut, on a voiture.
On arrive.
Je suis trop heureuse pour toi, ma sœur.
C'est toi qui m'emmène au foot mercredi.
Rends-le-vite, s'il te plaît, j'ai trop envie de voir le dernier épisode.
Ouais, frère, rappelle-moi, je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour
ça. Ça passe, mon ref.
D'abord, on va à la séance de 19h30 et après, on mange.
Ma sœur, t'es où?
Papa, on peut manger devant la télé ce soir?
C'était Grand Corps Malade en duo avec notre invitée du jour, Laïla Bekti, pour Le Sens de ma Famille. Restez avec nous, surtout, Clap, ça continue dans quelques instants.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous, vous écoutez toujours Europe 1 et c'est la troisième partie de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et surtout j'espère qu'il vous aiguille dans vos choix de films. Alors pour décrypter l'actualité des sorties de mercredi, donc des films à voir ce week-end, j'ai à mes côtés Franck Vallière, journaliste cinéma pour Canal+. Bonjour Franck.
Bonjour. Rebonjour.
Et Victor Bonnefoy, créateur du podcast Pardon le cinéma.
Bonjour.
Bonjour Victor. Alors avant de débattre des films en salle, un petit point quand même sur le box-office. Déjà, démarrage très puissant de Dune, l'adaptation du célèbre roman de Frank Herbert par Denis Villeneuve. Plus d'un million d'entrées quand même en une semaine. C'est beau, non, Victor ? Vous êtes content ?
Moi, je suis très très content que le cinéma de Villeneuve trouve son public, sachant qu'il enchaîne les films qui sont toujours d'une ampleur incroyable, que ce soit sa dernière adaptation, excusez-moi, de Blade Runner, ou encore là, prendre Dune à bras-le-corps. C'est assez impressionnant que ça marche auprès du public. Quel plaisir !
Et c'est le deuxième meilleur démarrage de l'année après Fast and Furious 9. À la deuxième place du podium, du box-office, cette semaine, on retrouve Boîte Noire. On est content, on a défendu ce film, c'est un véritable coup de cœur et il a déjà séduit plus de 500 000 spectateurs. Donc il y a un très bon bouche à oreille. Et puis sur la troisième marche, il continue son ascension Bac Nord de Cédric Jimenez. Plus d'1 650 000 entrées en 5 semaines. Je pense qu'ils vont atteindre les 2 millions là assez rapidement, non ?
Mais vont-ils battre Kaamelott ? Vont-ils battre Kaamelott ? Là est tout le mystère.
Oh là 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 ! Long et parsemé d'embûches ce chemin.
Oui, parfaitement.
On prend des paris ici dans Clap ou pas ?
Moi, je ne parie rien avec vous, Laurie. On sait comment ça se finit.
Non, pas du tout. Je suis très bonne joueuse. Alors actuellement, en salle, le bouleversant film de François Ozon. On en parlait la semaine dernière avec André Dussollier. Tout s'est bien passé. André Dussollier incarne un homme qui a survécu à un AVC, mais qui ne supporte pas de vivre en étant diminué, qui demande à sa fille, jouée par Sophie Marceau, de l'aider à mourir. Alors un sujet difficile, c'est vrai, mais un film qui oscille entre humour et drame extrêmement bien joué.
C'est un mauvais père.
Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami.
Alors aide-le. Comme une amie.
En France, c'est pas possible.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
J'irai contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas.
Très bien.
Et vous alors, vous en avez pensé quoi ?
C'est superbe. Dur, mais superbe.
C'est très touchant, c'est très doux. Et comme tout ce que fait Ozon, ça traite de sujets assez d'actualité. Et c'est fait avec beaucoup d'intimité et beaucoup d'émotion.
Je trouve que la mise en scène est absolument fluide. Et je trouve qu'il a été très fidèle au livre d'Emmanuel Bernheim. Mais en même temps, il y a la patte Ozon. Donc moi, j'ai bien aimé. Puis les acteurs jouent très bien.
L'autre sortie cette semaine, c'est le nouveau film de Tom McCarthy qui avait eu l'Oscar du meilleur film pour Spotlight. Là, il sort Stillwater. Alors, Stillwater, c'est l'histoire de Matt Damon, Bill Baker, un Américain qui débarque à Marseille pour innocenter sa fille accusée de meurtre. Il va rencontrer une comédienne, mère célibataire, incarnée par Camille Cotin, qui va l'aider dans sa quête de vérité et qui va lui servir de guide dans les rues de Marseille.
Alison était venue ici pour ses études et elle a rencontré cette fille, Lina. Un soir, elle a retrouvé Lina morte et elle a appelé la police. Le seul truc qui les intéressait, c'est qu'Alison couchait avec une arabe.
Je l'aimais.
Oui, je sais.
Tout le monde pense que je l'ai tué.
Je veux sortir ma gamine de tôle. Le reste, j'en ai rien à foutre.
Vous parlez vraiment comme un Américain, là. Hein ?
Tant mieux, j'en suis un.
Oui, et vous êtes aussi un étranger ici.
Alors Victor, je me tourne vers vous. Vous en avez pensé quoi de Stillwater ?
Eh ben Stillwater, c'est ce que j'appellerais un véritable film de Tom McCarthy, à savoir un film trois fois trop long et insipide. Donc, comme tous les films de Tom McCarthy, comme Spotlight avant
pas
lui.
À ça.
Non, mais c'est bien. Ça prouve qu'il a une véritable patte d'auteur. Donc c'est absolument passionnant. Après, j'y trouve plein de choses très intéressantes, notamment le traitement de la ville de Marseille, le duo Matt Damon Camille Cotin qui fonctionne à merveille.
Mais vous avez remarqué qu'à Marseille, tout le monde parle anglais ?
Oui, c'est formidable, incroyable, la France bilingue, ça y est, on y est. C'est incroyable, le grand emplacement par les Anglais et les Américains. Mais il n'empêche que vraiment, je suis assez touché par le film. On s'ennuie jamais, soyons très honnêtes, on s'ennuie jamais. Le problème, c'est que, comme le dirait un ami à moi, c'est un peu un film qui sent le savon, quoi. C'est un film qui n'a pas de rugosité, c'est un film qui n'a pas vraiment de contraste à l'intérieur, qui, oui, reste divertissant du début à la fin, de là à créer quelque chose qui va nous rester en tête assez longtemps, pas particulièrement, surtout qu'il est quand même 2h20. Ai-je 2h20 de mon temps à consacrer à un truc qui ressemble à moitié à un téléfilm de grande qualité, mais à un téléfilm quand même, je sais pas trop. Je vous encourage à aller le voir, je vous encourage à le découvrir parce que ça reste divertissant. De là à dire que ça restera dans notre palmarès de l'année, j'en suis pas vraiment certain.
Mais on peut consacrer 2h20 à Matt Damon et Camille Cotin quand même.
Mais moi je consacre 2h20 de ma vie à Matt Damon et Camille Cotin quand ils veulent.
Alors on va écouter ce que vous en avez pensé, vous.
J'ai beaucoup aimé ce film, tous les acteurs sont très bons et le film est assez complexe et montre une belle image de Marseille, toute la complexité de Marseille avec les paysages, très bonne surprise.
C'est assez sensible, peut-être un peu long de temps en temps, mais
mais c'est un joli film psychologique.
Et puis un film qui fait beaucoup parler cette semaine, l'adaptation d'un célèbre manga, Le Sommet des Dieux, l'histoire d'un photographe japonais qui croit reconnaître un alpiniste qui pensait disparu depuis plusieurs années, qui détiendrait un appareil photo contenant une preuve qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Le Sommet des Dieux, c'est l'histoire d'une quête qui va vous emmener sur les pentes de l'Himalaya jusqu'au sommet, jusqu'à l'Everest.
Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953, mais c'était pas la première tentative.
Je sais ce que vous voulez faire cet hiver. L'Everest, la face sud-ouest.
Tu rigoles ? Personne ne peut faire ça en hiver.
S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous. Je ferai tout ce que vous me direz.
8 ans qu'elle se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui.
Pourquoi tu fais ça ?
Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte.
Alors Franck Vallière, vous avez aimé, je crois ?
Oui, et pourtant j'y allais en moonwalk, c'est-à-dire que je m'attendais à m'ennuyer parce que je me suis dit, oh là, la verticalité de la montagne, les images, les plans larges, jamais l'animation ne pourra le restituer. Et en fait, c'est là le point fort du film selon moi, c'est-à-dire qu'il y a des scènes d'exposition où on expose donc la problématique de ce photographe, sa quête, etc. Et à partir du moment où on est vraiment en montagne, c'est-à-dire que j'étais saisi, quoi. En fait, les plans de cinéma auraient nécessité tellement de technicité que c'était impossible de faire ces plans-là. Et il y a un vrai suspense qui naît du dessin et de l'appropriation de ce manga qui faisait à l'époque, je crois, 1500 pages sur plusieurs saisons. Et du coup, le petit, on a fait un truc extraordinaire. C'est absolument délicieux.
Victor ?
Et moi, je trouve ça assez passionnant et fascinant. Et puis surtout, il y a quelque chose d'intéressant dans Le Sommet des Dieux, c'est qu'à la base, c'est un manga de Jiro Taniguchi. Et Taniguchi, en fait, a plus été adapté en France qu'au Japon. Il y avait notamment eu une adaptation il y a quelques années, il y a 10 ans environ, avec Quartier Lointain. Et puis, il y avait eu aussi une adaptation en téléfilm par Nicolas Boukrieff il y a quelques temps. Et c'est incroyable de voir à quel point les Français se saisissent justement de la matière qu'a créée Taniguchi pour en faire ensuite des œuvres de cinéma. Et contrairement aux œuvres précédentes, qui étaient notamment Quartier Lointain, qui avait la volonté de franciser absolument l'œuvre de Taniguchi, là, on respecte le matériel japonais, on respecte les personnages qui sont en jeu et on fait une véritable ode à la montagne avec cette mise en scène qui est absolument flamboyante. Il y a des plans de montagne qui donnent un vertige absolument fou. Franck parlait de verticalité, mais justement, je trouve que l'animation a su retranscrire ça à un niveau qu'on avait rarement vu et qui nous donne des véritables coups de pression. En fait, le film est assez court et en 1h30, condenser tout ça, ça reste quand même une épreuve de force que je trouve assez formidable. Et donc, du coup, le film demande de nous frapper assez fort tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, jusqu'à nous créer des véritables traumas aux personnages principaux et s'amuser avec la mise en scène. Moi, je pense à une des scènes finales dont je dirais pas grand-chose, mais qui s'amuse avec la couleur rouge à créer toute une ambiance de malaise et de détresse pour faire ressentir justement la détresse de ces personnes qui font de l'alpinisme et qui se perdent dans ces endroits-là. J'y connaissais absolument rien à l'alpinisme et j'ai
et
pas
maintenant vous voulez aller gravir
pas
les vrais
particulièrement tellement c'est terrifiant, pas particulièrement. Par contre, de là à dire que Le Sommet des Dieux est une œuvre vertigineuse, pour utiliser une expression un peu pompeuse, oui, absolument, il faut voir Le Sommet des Dieux et je pense que ça prend une force et une puissance en salle qui mérite la salle. Aller au cinéma.
Alors la puissance en salle, je crois que le public est conquis, on écoute vos avis.
J'ai trouvé ce film somptueux, ça crée une fascination, quelque chose vraiment qui touche au plus profond.
Un très chouette film, même si c'est un dessin animé, enfin, c'est des très belles images, c'est vrai que ça donne vraiment envie, et c'est vraiment un sujet passionnant, un milieu de passionnés, et c'est assez incroyable. Hein.
Le film a été très intéressant, surtout pour la réalisation, il y a un travail phénoménal là-dessus. Hein.
Et une autre sortie, on en parlait avec Laila Bekti, c'est Troisième Guerre, premier long métrage de Giovanni. Alors Anthony Bajon, Karim Leclou et Laila Bekti sont au casting donc, de ce film qui suit le quotidien des Sentinelles. Le quotidien plus particulièrement de Léo qui est un jeune soldat qui vient juste de terminer ses classes. Et pour sa première affectation, il écope d'une mission Sentinelle. Il doit donc arpenter les rues de la capitale, mais sans rien avoir à faire.
Une rue, des passants, des fenêtres. Ce que tu vois, c'est des menaces potentielles. Alors tu te méfies.
Les gens ne se rendent pas compte. Juste un mec déterminé peut anéantir l'humanité en 2 secondes. Et y a qui pour l'arrêter ? Moi, je suis prêt.
Alors Victor, Troisième Guerre, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt intéressant. Bon, déjà parce qu'il y a une force de casting qui est assez puissante. Que ce soit Anthony Bajon, Karim Leclou, Laila Bekti, des personnes qu'on a vues s'épanouir dans plein d'autres films et on est ravis de les voir justement ensemble. Ils ont une énergie commune qui fonctionne très bien. Mais surtout parce que le film prend un parti pris de filmer quelque chose qui est difficilement filmable, à savoir l'ennui. Qu'est-ce que l'attente ? Qu'est-ce que le fait d'être continuellement dans la recherche de quelque chose qui ne vient pas ? Là, ce qui est intéressant, c'est justement de traiter l'opération Sentinelle et de prendre le sujet à bras-le-corps et de traiter justement la paranoïa justement de ces militaires qu'on a abandonnés au milieu des rues de Paris en leur disant « Marchez, marchez, vous trouverez peut-être quelque chose ». En tout cas, nous, on y trouve un grand film.
Un grand film, alors ?
Oui, j'ai deux choses à ajouter. La mise en scène est un tout petit peu légère. On sent que c'est un premier film, et comme le film était à Venise en section horizontique, qui découvre de nouveaux talents, super. En revanche, la mise en scène est très, très à plat, très manichéenne. Et je trouve un tout petit peu dommage parce que le film a des talents extraordinaires, déjà de scénario. Baumard qui a écrit
Les méchants avec
Mouloud s'empare de sujets purement contemporains et les traite d'une manière exquise, vraiment, un peu déviante et en tout cas qui pose de vraies questions. On s'interroge véritablement en voyant ce film sur le poids de l'uniforme. On oublie trop souvent qu'il y a sans doute chez les CRS, les forces de l'ordre, les soldats, aussi des gilets jaunes, aussi des antivax qui font pourtant passer leur fonction avant leur propre point de vue. Et le film, à un moment que je ne dévoilerai pas, mais on pourrait se croire dans Alien, c'est-à-dire qu'il tire vers le genre au travers d'une manifestation dans une espèce de brume et amène le film d'une réalité extrêmement pragmatique vers l'onirisme violent d'un film de genre. C'est très réussi pour ça.
Ouais, mais c'est dommage de parler justement de la mise en scène en la trouvant réduite, parce que justement je trouve que c'est dans ces scènes-là, et notamment dans la scène de manifestation, que le film explose en termes de mise en scène, dans des volontés esthétisantes. Il y a notamment le personnage de Camille Leclou qui se retrouve couvert de peinture jaune, justement, et justement le réalisateur cherche à créer de la texture dans l'image, cherche à justement créer de la mise en scène, créer de l'esthétique.
Et justement, je me suis même demandé si c'était pas fait sciemment, c'est-à-dire pour rappeler que seule la caméra extérieure, le troisième œil, est en fait sage, calme et posée dans un monde qui est un chaos infernal.
Et vous, alors, qu'en avez-vous pensé de cette mise en scène ?
Au début, ça m'a un petit peu irritée, mais c'est un film très touchant parce que ça montre la fracture actuelle de notre société.
J'ai vraiment trouvé que c'était un film âpre, violent, mais d'une force incroyable et qui pose beaucoup de questions quant à la place de ces sentinelles et de l'ambiguïté de leur travail qui fait qu'en fait, ils sont là pour surveiller, mais ils ne peuvent pas intervenir quand ils voient un acte de violence et c'est très dur.
Bah, c'est assez pessimiste. La fin, vraiment, elle est hyper intense, c'est hyper court, c'est hyper dense d'un coup, mais plutôt bien aimé.
Et puis juste un mot dans les salles de documentaires qui étaient présentées au dernier Festival de Cannes, réalisé par Flore Vasseur, coproduit par l'actrice engagée Marion Cotillard, Big Guns and Us, film qui suit le récit de 7 jeunes engagés à travers le globe. Et alors Marion Cotillard résume tout, elle dit « ce sont bien plus que des héros de cinéma ». Voilà, c'est la fin de ce clap. Merci beaucoup, merci Victor Bonnefoy, merci Franck Vallière, merci à
bon
vous.
Merci, bon week-end.
Merci beaucoup.
Très bon week-end, allez au cinéma. Merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous, surtout à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, c'est William Lémergie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau clap, même jour, même heure. Très belle journée à vous.